Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons ouvrir une page, ou plusieurs pages de notre Bible. On va commencer par une lecture très courte dans l'Épître aux Romains. Alors, Épître aux Romains, chapitre 1er, un texte dont nous sommes familiers. On pourrait presque le restituer de mémoire sans ouvrir notre Bible, mais on va le faire quand même. Alors, lettre aux Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. C'est l'apôtre Paul qui nous laisse ces paroles, et il dit en substance « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, le juif, le païen, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors voilà la déclaration de Paul, une seconde, et là nous allons prendre en considération l'essence même du message de ce grand apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, Alors, j'ai dû me tromper de référence, mais je vais vous le dire de mémoire. J'espère que ma mémoire va pas faire défaut. Que ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses passées, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelle. Merci Seigneur pour ma mémoire. Alors voilà donc ce que nous dit tout simplement l'apôtre. Et j'aimerais justement que nous fassions un tour d'horizon sur ce qui est l'essentiel du christianisme. Enfin, un élément essentiel du christianisme, c'est de naître de nouveau. Alors, les uns et les autres, pour la plupart d'entre nous, nous avons fait cette expérience d'une nouvelle naissance. Fort heureusement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais ça peut être une interpellation pour les amis qui nous rejoignent, parce que c'est un enseignement fondamental que Jésus nous laisse dans l'évangile de Jean, quand il parlera à cet homme, ô combien religieux, ô combien consacré à sa foi, à sa religion d'Israélite, lorsqu'il dira ceci, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, s'il ne naît de nouveau. Voilà. Alors, c'est peut-être un rappel pour chacun d'entre nous, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier que nous allons développer à travers ce message de l'apôtre Paul qui a quand même écrit, me semble-t-il, 13 lettres. Et l'apôtre Paul constitue le premier écrivain du Nouveau Testament, à travers tout ce qu'il a pu enseigner pour l'Église d'hier, l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Et quand il dira ceci, mais je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance de salut pour le quiconque croit, du juif, il était juif, il était israélite, et puis du grec, c'est-à-dire le monde païen, c'est-à-dire nous, en quelque sorte. Et c'est une justice de Dieu, figurez-vous. Une justice de Dieu accomplie par Jésus-Christ, non pas notre justice à nous, afin que finalement, nous ne soyons plus sous les rudiments de la loi, avec des contraintes, avec des devoirs, des obligations qui écrasent l'homme, mais de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension, un homme nouveau, dans la liberté que nous procure la vérité de l'évangile qui nous a été annoncé. Alors je voudrais être simple ce matin, parce que ça pourrait ressembler à de la théologie, mais je ne veux pas faire de théologie. Je veux faire des choses qui soient véritablement accessibles pour chacun, pour ceux qui découvrent, au milieu de nous, et ailleurs naturellement, et puis pour nous qui quelquefois, peut-être nous pouvons oublier, oui nous pouvons oublier après des années de conversion, que nous devons maintenir cette vie nouvelle à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous pouvons redescendre finalement et bien là où Dieu nous a pris avant que nous le connaissions, c'est-à-dire devenir des braves gens, des honnêtes gens, bien sûr, avec une morale, avec des devoirs de conscience. Mais c'est pas ça ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est d'être une nouvelle créature et la vie de l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose donc d'essentiel. Je voudrais aborder brièvement sept points, sept éléments particuliers qui constituent le message de l'apôtre Paul. Et ça, je crois que c'est quand même important. Alors, pour cela, encore une autre lecture dans 1 Corinthiens, tout simplement. Nous allons lire cette parole, si vous permettez, parce que je crois que ce qui est important, c'est naturellement le commentaire du prédicateur. Mais ce qui est plus important, c'est eh bien les assises de ce qui peut être dit par un homme, mais où il va puiser cette vérité dans la parole de Dieu. Il faut jamais s'en départir, autrement on peut raconter n'importe quoi et finalement d'illusionner l'auditoire. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, alors nous allons retrouver ça, il y aura peut-être quelques pages à tourner naturellement, mais bon, peu importe, voilà, et chapitre 3, versets 9 et 12, et voilà ce qu'il est dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Qu'est-ce que veut nous dire l'apôtre Paul en substance à travers ce qu'il nous laisse dans cette écriture? D'abord, je voudrais poser le fondement de notre réflexion, à savoir que quatre hommes ont été, dans l'histoire du Nouveau Testament, quatre hommes choisis par Dieu, appelés par Dieu, des colonnes angulaires de l'édifice de l'Église. Il y a Jésus-Christ à la première heure. Ça, c'est le fondement, nous l'avons lu. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Il y a un premier homme qui apparaît, c'est l'apôtre Jacques, qui est le frère de Jésus. Il y a Pierre, il y a Jean et il y a Paul. Il y a Jésus en premier et quatre autres, naturellement. Si l'on voulait caractériser, tout simplement d'un mot, la prédication de chacun de ces quatre personnages, je rappelle, Pierre, Jean, Paul, Jacques. Si l'on voulait définir ce qui a été, eh bien là, tout simplement, sur le fondement de Jésus-Christ, la mission, le rôle de chacun, eh bien, on dirait tout simplement, de cette manière, l'on pourrait donc, en un mot, dire ce qui a été le message, tout simplement, et ça pourrait se formuler ainsi. Jacques dit aux hommes, fais un évangile pratique, d'accord? Pierre nous dit, attends, l'espérance. Nous allons le revoir. Jean dit « aime », tout simplement. Mais Paul nous dit, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Paul dit « deviens ». Ça, c'est le message de Paul. L'un nous dit tout simplement « fais », l'autre dit « attends », « espère », « crois ». Jean nous dit « aime », ça, c'est le beau message de Jean. Et Paul nous dit « deviens ». Pourquoi ? Parce que le premier est l'apôtre des œuvres, oui, la pratique, Jacques. Le second est l'apôtre de l'espérance, espère, crois. Le troisième est l'apôtre de l'amour, et on le sait. Et le quatrième est l'apôtre d'une nouvelle création, devient. Une nouvelle créature, nous l'avons lu tout à l'heure. Si quelqu'un est une nouvelle créature, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est important dans la vie, c'est pas d'être un croyant, c'est même pas d'être un chrétien, c'est d'être une nouvelle créature. Un être changé, un être renouvelé, non pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais au plus profond de nous-mêmes, dans nos âmes, dans nos pensées, notre mentalité. Ça, c'est l'essentiel. Une nouvelle naissance, nous dit Jésus. C'est ce que ce brave Nicodème n'avait pas compris ou a eu du mal à comprendre au départ, hein, parce qu'il va discuter, mais comment peut-on devenir une nouvelle créature? On est né une première fois, et je voudrais le rappeler physiquement, mais on est né une seconde fois. Les uns et les autres, vous êtes nés deux fois. D'accord? Je vous le rappelle, hein. On a tout à fait conscience de notre première naissance, bien qu'on s'en souvienne pas. Mais par contre, la deuxième, faut pas l'oublier, c'est que quelque part, eh bien, on se souvient de ce qui s'est passé. Une transformation, une révolution dans notre vie. Et ça, on devient chrétien, on ne naît pas chrétien, on le devient à un moment donné par une rencontre avec Jésus et au contact de sa parole qui est la vérité. Le deuxième point que j'aimerais entrevoir avec vous, c'est tout simplement, Paul a été le messager de la nouvelle naissance, ou d'une vie nouvelle tout simplement. C'est pourquoi le mot « devient » eh bien, est tout à fait à sa place. Alors, je voudrais simplement étayer cela encore par un texte dans 1 Corinthiens chapitre 9, et laissez-moi vous lire cela parce qu'il explique qu'il a été véritablement ce grand apôtre des nations, et il dira ces mots. Alors, 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 19, il dira « Mais bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, ou le prédicateur de tous, ou celui qui annonce la bonne nouvelle à tous, tout simplement, afin de gagner le plus grand nombre. » Et voilà, il va expliquer comment était sa vie, et ses écritures, ce qu'il a écrit, les épîtres, son message. Il dira « Mais avec les juifs, moi, je suis un juif, dira-t-il. Avec les juifs, j'ai été comme juif, tout simplement, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, les païens par exemple, on en reparlera, comme sans la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, et là c'est plutôt un caractère moral qui est dépeint, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Voilà, ça c'était la raison de vivre. C'était le but ultime de l'apôtre Paul, qui n'a pas toujours été un chrétien de l'évangile. Il était même un opposant, il a même été un persécuteur, il a même été un ardent zélateur pour détruire finalement la foi en Jésus-Christ. Mais il est devenu. C'est pour ça que son message, le mot clé de toute sa vie, ça a été pour lui, par l'expérience, mais pour les autres, devient. Devenir. Et ça, c'est vraiment la leçon. Et il nous parle finalement de l'universalité du salut. Il était tellement étroit auparavant. Il y avait que les Juifs qui comptaient. Il y avait qu'Israël qui avait finalement cette entrée auprès du trône de la grâce de Dieu. Les autres, ils étaient perdus. C'était des maudits. Pour le juif orthodoxe extrémiste, comme on en trouve encore aujourd'hui, hein. On en trouve dans le judaïsme, on en trouve dans l'islam, on en trouve même dans le christianisme des extrémistes. Il n'y a que ça qui compte et finalement ils sont plus royalistes que leur roi. Ça c'est des gens dangereux, hein. Il faut vraiment s'en méfier, hein. C'est extrêmement dangereux parce que ce sont pas des gens qui sont nés de nouveau, hein. C'est pas des gens qui ont passé par une expérience de la foi ou de l'amour, d'une transformation intérieure. Alors c'est une question d'universalité de salut que son message, adapté à tous les hommes. Et il dira, mais avec les faibles, je me suis fait faible. Avec ceux qui étaient un petit peu chancelants, je me suis fait comme eux, finalement, pour que leur transmettre que le message de Jésus-Christ, c'est un message de soutien, de consolation, c'est un message qui, finalement, nous aide à marcher dans cette quelquefois pauvre vie. Avec les juifs, je me suis fait juif. Avec ceux qui ne sont pas juifs, je me suis fait comme si j'étais pas juif. Quelle adaptation, hein. En tous les cas, je voudrais vous dire que Paul n'avait pas d'œillères. C'est ce que c'est les œillères. C'est pour regarder véritablement, et là, sans regarder de côté, mais quelquefois, quand on voit le comportement de Jésus, qui a pu aller rentrer dans la maison autant d'un pharisien, que de se faire essuyer les pieds par une prostituée, et puis de donner des messages d'ouverture, finalement, avec un esprit d'une largeur, qui n'est pas la largeur de la terre et des hommes de la terre, mais la largeur de Dieu dans le ciel. Dieu veut sauver, finalement, les hommes, quels qu'ils soient. Alors, c'est parce que Paul a formulé en termes décisifs la doctrine, nous pourrions dire, ou le message de la nouvelle création, de la nouvelle créature, de la nouvelle naissance, que sa foi a été profonde dans la conscience des hommes. Le message de Paul est un message qui renverse, qui bouscule, et c'est pourquoi il dira « mais je n'ai pas honte de l'évangile, on me met en prison, on me maltraite, on me bat, on fait toutes sortes de choses, mais je ne m'arrêterai pas parce que je n'ai pas honte de ce message ». Avis à peut-être à tous les chrétiens qui seraient timorés en disant « mon drapeau, je le mets derrière le dos pour pas qu'on sache que je suis chrétien ». Mais lui, il n'avait pas peur. Et c'est parce qu'il a été comme il a été que des hommes se sont convertis. Que les hommes, même les plus opposés au christianisme, ont été complètement renversés. Nous pourrions dire que Paul a été l'organisateur de l'église primitive, de la première église. Et 13 épîtres, nous en avons la preuve, hein. Et en passant tous les détails de la vie des chrétiens, des églises, ce qui va et ce qui ne va pas. Et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais heureusement qu'il nous en a parlé, parce qu'aujourd'hui nous savons ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Si on veut, naturellement. Alors, organisateur de l'église primitive. Je pourrais vous dire si le mot convient. Un mot, je dirais qu'il a été le patron. Vous savez, patron, ça veut dire père, en quelque sorte. Mais pas le père céleste, hein. Le père des âmes de réveil dans tous les temps. Et aujourd'hui, on s'inspire encore, finalement, de ce qu'a été le message de Paul pour amener les gens, eh bien, à se réveiller, les âmes à se réveiller, les églises à se réveiller, les chrétiens, moi-même à me réveiller à travers ces paroles, à travers un message qui était avant tout un message de l'Esprit. Et Paul a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Paul a beaucoup parlé de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Eh oui. Et il l'expliquera comme une profondeur de Dieu, mais pour celui qui ouvre son cœur, eh bien, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. C'est une révélation accessible même au plus simple, même à ceux qui, quelque part, eh bien, n'ont pas fait des études de théologie, des cœurs simples, vous comprenez? Alors, il a été, c'est vrai, l'organisateur, le patron. Il a été, il faut le dire, le fondateur incontesté du message de l'évangile. Oui, en quelque sorte. Fondateur, c'est celui qui a posé les bases. Mais sans oublier que le vrai fondateur, c'est Jésus. Hein. C'est-à-dire qu'il a remis les choses sur la personne de Jésus. Et non pas sur un prêtre, non pas sur un pasteur, non pas sur une dénomination religieuse. Il a dit, c'est Jésus. D'ailleurs, il l'écrira. Hein. C'est bien marqué. Hein. Nul ne peut poser d'autre fondement, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors, il nous dit tout cela. Alors, on pourrait se demander, mais où est-ce qu'il a tiré ce message et cette doctrine? Ben, premièrement, c'est son expérience personnelle. Vous savez, il n'y aura jamais de gens et jamais autant de chrétiens qui pourront parler, rendre témoignage avec force et audace que quand on l'a vécu soi-même. Ah oui. Merci pour les écoles de théologie, nous en avons. Merci pour les écoles bibliques, mais on peut connaître tout cela, en avoir la connaissance qui peut nous enfler d'orgueil parce que de dire « je sais ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. On ne sait rien du tout. Mais par contre, quand on l'a vécu, c'est autre chose. C'est une autre dimension, hein, et vous le comprenez certainement. Alors, il va prêcher l'évangile de la grâce, tout simplement de la grâce de Dieu, mais un Christ qui est mort pour nous, un Christ qui est ressuscité, une grâce nécessaire à tous les hommes, parce que tous sont enfermés dans le péché. Dans Corinthiens, il dira, mais Christ est mort pour les péchés du monde entier. Il ne vise pas des demi-chrétiens, des demi-convertis, des demi-tout ce que vous voudrez à moitié. Il vise des gens qui sont perdus pour qu'ils deviennent des sauvés. Tous, pas seulement les juifs. À un moment donné, il va se tourner vers les juifs. Il va aller de synagogue en synagogue, on va le mettre à la porte, on va lui lancer des pierres. On va finalement, eh bien là, presque le mettre à mort, presque le mettre à mort. Et à un moment donné, il va dire, eh bien, puisque vous voulez pas l'entendre, eh bien, moi, je vais l'annoncer au monde entier. Il est devenu l'apôtre des païens, en quelque sorte. Et il avait tout à fait conscience que tous les hommes ont besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, le monde autour de nous, notre région, notre pays, vous croyez pas qu'il a besoin, finalement, eh bien, d'entendre le message de Jésus-Christ? Si les gens avaient cette notion d'un Christ qui sauve, un Christ qui pardonne les péchés, il n'y aurait pas tant de haine, il n'y aurait pas tant de violence, il n'y aurait pas tant de crise comme nous voyons aujourd'hui, puisque ça nous donne le vertige, hein, on n'est pas loin du précipice. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais il suffit de regarder les choses et l'histoire se répète. Alors c'est tous les hommes, tant juifs que grecs, nous dira-t-il, dans la première lecture que nous avons faite, voilà l'évangile que Paul appelle proprement mon évangile. Ce n'était pas son évangile, mais il dira partout, voilà mon évangile que j'ai prêché. Je prêche mon évangile, je prêche la repentance, avec les fruits dignes de la repentance, autrement ce n'est pas une repentance. Ça ne sert à rien. Troisième point, Paul annonce une bonne nouvelle pour ceux qui n'y croient pas, ou plutôt peut-être pour ceux qui n'y croient plus. Et il se tourne vers les Juifs. Ah, les Juifs, qui ne croyaient plus, qui ont cru pendant l'histoire. Mais quand Jésus est arrivé, ils ne croyaient plus au Messie. Ils ne croyaient plus alors qu'ils étaient, excusez-moi l'expression, mais qu'ils étaient blindés de connaissances. Ils connaissaient la Bible, l'Ancien Testament, la loi de Moïse, la loi des prophètes. Ils la connaissaient sur le bout des doigts, mais ils n'y croyaient plus. Ils n'attendaient plus. Et aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus, ils l'attendent encore. On attend le Messie en Israël aujourd'hui. Et ça fait bien longtemps qu'il est arrivé. Alors, une bonne nouvelle pour ceux qui n'y croient plus, ce que j'appellerais la religion de l'incrédulité. Ah, c'est bizarre ça, hein ? Oui, la religion des incrédules. Et autant pour le monde juif, autant dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a des religions qui sont plus des religions de la foi en Christ, mais les religions de l'incrédulité. Traversées par toutes sortes d'idéologies, de philosophies, toutes sortes de choses. Alors il y a l'apparence du christianisme, l'apparence de la piété, mais ils en renient ceux qui ont fait la force. Alors ils se tournent donc vers les Juifs, et j'ai cette lecture devant les yeux, nous allons la faire ensemble, dans Romains chapitre 9, et il nous en parle savamment quand il nous dit ceci, et vous allez voir que son message, eh bien, était un message d'amour pour ceux qui étaient de sa nation, et il aurait tellement voulu qu'ils soient sauvés, mais il ne le voulait pas parce qu'il ne le croyait pas. Et Paul nous dit dans Romains, « Je vous dis la vérité en Christ, dira-t-il à ses co-religionnaires, avec ceux qui ont été, eh bien là, de la même obédience spirituelle, c'est-à-dire les Juifs. Hein. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et il dira, il pleurera, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Béni soit éternellement Dieu. » Il pleurait, parce qu'il voyait comme nous pouvons pleurer nous aussi lorsque nous voyons des amis, lorsque nous voyons les membres de notre famille, nos parents ou nos enfants qui ne se tournent pas vers le Seigneur. C'était sa motivation, c'était une motivation de compassion, une grande tristesse d'être tout seul parfois au milieu de ce peuple et au milieu comme nous le sommes, au milieu de nos familles, de nos amis, sans savoir que finalement, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas croire, parce qu'ils ne veulent pas. Ils le refusent. Et au chapitre 10, un peu plus loin, nous trouvons à peu près la chose similaire. Verset 1er, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » On comprend la complémentarité de tout ça. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » C'est vrai, avec leurs cérémonies, avec leurs rituels, avec toutes sortes de choses. Mais c'est un zèle sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ, écoutez, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous ne sommes pas sous la loi, mes frères et sœurs, mais nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes justifiés par le Seigneur parce que nous croyons, non pas parce que nous faisons. D'accord ? Nous allons faire et nous faisons parce que nous croyons. Et non pas nous allons nous justifier en faisant, en nous passant, finalement, et bien de croire. Ça, c'est la religion des incrédules. On fait tout et on ne croit pas, finalement, que Dieu est venu pour nous aider à mettre en pratique les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est une mentalité, hein ? C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, parce qu'on ne peut pas comprendre ça si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. et Paul était passé par la nouvelle naissance. Et on pourrait peut-être se saisir de cette parole que Jésus nous laisse. Très souvent, à la fin de ses messages ou à la fin de ses enseignements, les premiers seront les derniers. Oui, et les derniers seront les premiers. Qui a été le premier? Israël. Et il est devenu le dernier aujourd'hui. Dans le christianisme historique, les premiers chrétiens, mais étaient véritablement les premiers. Mais quand on voit à la fin des siècles, 21 siècles après, cette belle histoire de la nouvelle alliance, on s'aperçoit que les églises ont vieilli. Elles se sont calcifiées, elles se sont renfermées dans des cathédrales, dans des temples, elles se sont renfermées dans toutes sortes de choses qui les ont sclérosées. Elles ont vieilli. Et elles sont mortes. Je dis bien, elles sont mortes. Et nous avons besoin d'un renouvellement de l'esprit. Et quand on voit le christianisme d'aujourd'hui, je ne critique pas, c'est une constatation que même les sociologues et les observateurs de la société d'aujourd'hui s'aperçoivent que, finalement, qu'est-ce que ça signifie l'Église? Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il y a besoin d'un souffle nouveau, il y a besoin d'un renouvellement, quelque chose qui fasse vivre les hommes. Alors on pourrait dire que le christianisme d'hier, les premiers seront les derniers. Ouais, ils étaient les premiers, maintenant on est devenus les derniers. L'Église est moribonde. C'est pour ça qu'il faut que véritablement il y ait une vie d'esprit. Il y a un renouvellement, il y a un souffle nouveau, il y a un réveil en quelque sorte. Mais ça ne viendra que par une nouvelle naissance. Et nous avons besoin de prêcher dans nos églises évangéliques que la nouvelle naissance est encore un thème principal de la prédication et de l'évangélisation. Ça sert à rien d'avoir du monde. Ça sert à rien de faire du nombre. Et c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité de la vie. La vie spirituelle. C'est pas important d'avoir une religion. Moi, j'avais une religion. Mais je n'ai plus de religion. Maintenant, j'ai Christ dans ma vie. Ça change tout. Un Christ qui est mort pour moi et un Christ qui est vivant en permanence. Et c'est vous, c'est la même chose. Alors, Paul va se tourner vers les Juifs et il va dénoncer la loi de Dieu qui est mal comprise. Pas l'abolition, mais quelque chose d'autre. Il va leur dire à un moment donné aux Juifs, ce qui va lui valoir pas mal de problèmes, il va leur dire, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et il a raison. Il dira aux Juifs, vous avez le commandement ou les commandements. Certes, ils vous apprennent à connaître la volonté de Dieu, mais de connaître ne vous donne pas le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas. Tout simplement. Vous ne pouvez même pas la connaître, la volonté de Dieu, parfaitement, et vous ne pouvez même pas la comprendre. Il dira également aux Juifs, vous avez les promesses, mais elles vous servent à vous enorgueillir. Ah, nous avons Dieu de notre côté. Et vous méprisez votre prochain en même temps. Vous êtes devenus des orgueilleux avec votre religion, mais, et puis, vous pensez que vous êtes devenus les meilleurs, puis les autres tout autour de vous, ce sont des moins que rien. C'est l'histoire de l'enseignement de Jésus, du pharisien et du publicain dans le temple. Je ne veux pas faire de commentaires, mais vous connaissez un petit peu, hein, quel mépris. Parce que vous mettez un visage devant votre vie, devant vous, un masque sur votre visage, tout simplement, et vous vous abusez par une dévotion que vous imaginez plaire à Dieu, mais finalement, eh bien, Dieu n'est pas dans cet agrément, hein, tout simplement. Vous abusez vous-même. Alors, il est nécessaire, Paul dira aux Juifs, que vous deveniez de nouvelles créatures. Parce que si vous n'en êtes pas là, eh ben, vous resterez avec vos traditions et vous referez tout au long de votre vie les mêmes gestes, les mêmes démarches pour satisfaire un devoir de conscience. Mais votre conscience, elle est oui ou non purifiée par le Seigneur. Si elle l'est pas, ben, vous pourrez recommencer comme ça. Et la religion d'aujourd'hui, la religion chrétienne historique, mais c'est toujours la même chose. C'est avec des dates de calendrier, on recommence, on observe ceci, on observe cela, et c'est toujours la même chose. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu de la vie et du renouvellement? Ben, c'est ce que nous croyons, nous, en tous les cas. Hein. Et c'est ça ce qui nous permet d'avancer, en quelque sorte. Devenir une nouvelle créature. Dieu s'est tourné vers les Juifs. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'attendaient pas. Et Dieu va se tourner vers les païens. Les païens. Alors nous avons cette belle parole, hein, que vous connaissez dans 1 Timothée. où il nous est donné cette chose, chapitre 2, et versets 3 à 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ah, ça c'est véritablement, eh bien, un tsunami et une révolution dans le monde. Ouais, pas seulement les Juifs, mais maintenant les païens. Le monde entier va entendre parler de Jésus-Christ, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il y a trois obstacles. Il y a trois obstacles. Il y a l'obstacle du devoir, pour plaire à Dieu. Il y a l'obstacle de la morale, ou moralisme. Et puis, il y a l'obstacle chez les païens de l'ignorance et de la superstition. Eh oui, les religions païennes sont des religions superstitieuses, voire même occultes. On le sait, hein. C'est vrai. Et en se tournant vers les païens, Paul proclame tout simplement l'inanité, c'est-à-dire l'inefficacité des prétentions de la morale. Laissons la morale aux philosophes. Laissons la morale à tous ceux qui, quelque part, avec voulant une bonne conscience, se sont donné des règles, mais des règles humaines, tout simplement. La morale n'est pas mauvaise en soi, mais elle est bonne même. Mais s'il y a que la morale pour nous sauver, on ne sera pas sauvé par la morale, hein. Parce que la morale, on l'a tous les jours, hein. On l'a tous les jours dans notre monde, en politique par exemple. Voilà. Quand on parle d'exemplarité et que l'on voit ceux qui nous disent d'être exemplaires, ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est la morale. Je me fais remettre en prison un jour ou l'autre. Enfin bon. J'aime bien les oranges, vous y penserez. Paul nous présente les païens comme ayant dans leur nature et dans leur conscience finalement un sens du devoir. Oui, c'est vrai, il y a des braves gens, il y a la notion du devoir, et il reconnaît finalement qu'il y a ça chez les gens qui ne connaissent pas le Christ. Bien sûr, le devoir. Mais le devoir n'est jamais sans sacrifice. Or, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, il faut le savoir, l'homme qui est superstitieux, l'homme qui est religieux, superstitieux, l'homme qui, finalement, eh bien, connaît le devoir et la morale, eh bien, va vivre quelque chose, il fera tout pour échapper au sacrifice. Parce que la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est mourir avant, à notre moi, à notre personnalité, à notre caractère et notre tempérament. Voilà. Jésus le dit, hein. Quelque part, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est mourir. Alors, c'est pas ça. Mais c'est mourir à l'intérieur. De dire, moi, je ne suis rien et Christ est tout maintenant à l'intérieur de moi-même. On lui laisse la place. Ça s'appelle mourir. Mais les gens qui se réclament du devoir et de la morale, ils sont pas prêts à mourir, hein. Ah, dites donc, ils se défendent comme, j'allais dire, de beaux diables. Eh oui. Ils résistent, hein. Et quand ils réussissent quelque chose dans leur devoir et dans la morale en disant « Nous sommes quand même supérieurs aux autres. Regardez ces pauvres gens. Ils n'arrivent à rien. Ce sont des faibles. Ils tiennent pas la route. Mais nous, ça c'est une mentalité de pharisien. » Et c'est pas bon, hein. On le sait. Parce que la morale seule est sans force. Elle ne peut rien faire. Et Jésus le savait bien. C'est pourquoi vous l'entendez jamais dire « Soyez moraux ». Jésus n'a jamais dit aux gens « Soyez moraux !» Mais j'ai dit « Suivez-moi, apprenez de moi, venez à moi, alors vous recevrez le Saint-Esprit, c'est dans le contexte, et vous deviendrez des nouvelles créatures. » C'est ce que Jésus nous dit, tout simplement. Quatrième point. Paul prêche une bonne nouvelle pour les croyants, les chrétiens religieux. Alors, je dirais quelque chose, mais qui ne sont pas convertis. Ils croient en Dieu. Ils ont peut-être leur devoir, leur morale, le sens du devoir et la morale, mais ils sont encore sous la loi, comme les Juifs, comme certains païens, devenus, entre guillemets, chrétiens. Et là, nous sommes confrontés avec deux extrêmes. La loi, appelée le légalisme, bien racontée dans l'histoire des Galates et de Colossiens. Et puis, il y a la foi, qui est une liberté, une libération. Et ça fait pas toujours bon ménage, hein, quand on veut concilier les deux. Parce que l'une va détruire l'autre. Ou la deuxième va finalement, eh bien, nous rendre capables d'observer la première. Bon, je ne voudrais pas rentrer trop dans les choses. Ce qui fait d'un chrétien, soit il est charnel, ou soit il est spirituel. Des chrétiens charnels, il y en a eu, hein, dans l'histoire de la Bible. Et des chrétiens spirituels, il y en avait aussi, et qui nous sont montrés en exemple. Et pour nous souligner une chose, c'est que l'on peut être croyant avec l'illusion de faire des bonnes œuvres. Et plus on en fait, plus on pense qu'on va aller au paradis. Plus Dieu va nous accepter dans son ciel. C'est l'alternative entre faire moi-même ou laisser Dieu faire à travers moi. Parce que si je fais moi-même, je dirais, j'ai réussi, je suis bien, c'est formidable, à la force de mon poignet, de ma volonté, j'ai réussi. Ou alors, à ce moment-là, de dire, eh bien, Seigneur, je réussirai jamais. Moi, je suis incapable. Hein? Qui peut avoir cette capacité? Qui peut être suffisant, nous dira l'apôtre Paul. Alors, si je me sens pas suffisant, alors je vais prier Dieu, je vais crier à Dieu pour qu'il me rende capable, lui, par son esprit. C'est deux choses différentes, hein. Et il y a beaucoup de gens, même dans nos églises, qui disent « on va y arriver encore ». Eh bien, tant que vous n'aurez pas compris que vous n'y arriverez pas, et qu'il vous faut demander l'aide de Dieu, le secours de Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, il faudra tout simplement… Ne vous faites pas d'illusions, ça ne marchera jamais. C'est le chrétien charnel d'un côté et le chrétien spirituel de l'autre. Il faut choisir. C'est pour ça qu'il est dit « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles maintenant, hein, parce que Christ est en moi. Christ me donne sa force. » Parce que, autrement… Si l'homme avait été capable de se sauver lui-même, pourquoi Jésus serait-il monté à la croix? Pourquoi Dieu aurait-il envoyé Jésus? Ça ne servait à rien. C'est un sacrifice inutile, alors que Jésus est mort pour les péchés du monde entier, y compris pour les miens, pour les vôtres, les uns et les autres. Alors, il va se tourner vers les chrétiens judaïsants dans l'histoire de la Bible. Vous avez entendu parler des juifs qui étaient devenus chrétiens, etc., etc., et qui considéraient le christianisme comme le couronnement de la loi, en disant, ben voilà, c'est formidable, mais il se disait, pour être vraiment de bons chrétiens, il faut se faire circoncire, il faut encore suivre les lois de Moïse, il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela, parce que c'est pas possible. Et il comptait sur les mérites. Vous connaissez cette doctrine du mérite, des bonnes œuvres, qui estimait qu'un païen ne pouvait pas devenir chrétien s'il ne se convertissait pas au judaïsme. Ça, c'est tous les débats finalement que nous avons dans Galates, et puis dans les épîtres de Paul, en disant, mais vous qui espérez dans la loi, mais vous êtes maudits, hein, parce que la loi vous maudit. Et Paul va nous donner des mots et des enseignements qui vont être extraordinaires par rapport à cela. Et il voudra dire à ces chrétiens qui sont judaïsants, ou comme ces chrétiens d'aujourd'hui, dans les églises de l'histoire, et même peut-être parfois chez nous, en disant, mais il faut absolument que j'ajoute quelque chose à l'œuvre de Christ, parce que c'est pas possible. Mais écoutez, Christ a donné les dernières paroles de la croix, tout est accompli. Alors si tout est accompli, nous n'avons rien à ajouter, sinon qu'à croire que tout est accompli. Et il leur enverra cette parole, mais si vous restez sous le joug de la loi, vous ne comprendrez jamais l'évangile. Jamais vous comprendrez l'esprit libérateur, finalement, de l'évangile. Si vous cherchez les mérites par les œuvres, eh bien, vous n'accepterez jamais Christ, parce que finalement, vous faites vous-même Dieu, en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de Christ. C'est terrible, hein, ce dilemme. Et je suis sûr qu'il y a des problèmes de conscience, quelquefois, même dans nos églises évangéliques, parce que les gens n'ont pas encore compris cela. C'est l'essentiel, c'est primordial. Moi, je suis un prédicateur du Nouveau Testament, vous comprenez? Et de la grâce de Dieu. Et je suis pas le seul, naturellement, mais il faut que ça soit bien implanté au plus profond de nos vies, parce que cela nous donne la liberté des enfants de Dieu, et nous en sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Jésus-Christ, parce que nous sommes passés par une nouvelle naissance à chaque fois. Cette prétention de fonder la liberté sur la grâce et le salut sur une nouvelle créature est l'essentiel finalement du message de Paul, c'est le fond de sa doctrine, c'est le fond et c'est l'esprit même de l'évangile. La chute dans le jardin d'Éden a séparé Dieu de l'homme, le créateur de sa créature, parce que Dieu est esprit et lui il est dans le ciel. L'homme est sur la terre et il est charnel. Donc, ce qui est chair est né de la chair, ce qui est de l'esprit est né de l'esprit, dit Jésus à Nicodème. Alors, l'homme va s'efforcer vainement de connaître Dieu et de le servir, mais il va connaître qu'un Dieu à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire à travers toutes sortes de repères qu'il aura, les statues, la musique, les grands messes, les cultes où on fait vibrer l'âme, vous comprenez, ça sera toujours un Dieu de l'extérieur. Et il va chercher, il a besoin d'aller dans une église pour se recueillir. Mais pour un chrétien, mais nous pouvons prier dans la rue, nous pouvons prier dans une voiture, nous pouvons prier où nous voulons. Le temple de Dieu, c'est mon cœur, c'est mon corps, c'est un Dieu de l'extérieur, cela. Or, tant que Dieu est à l'extérieur, à l'homme, la religion n'est qu'une obligation légale. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois prier devant ceci, tu dois prier devant cela. C'est un culte de dévotion formaliste, avec des commandements, avec la morale, avec une accommodation mondaine, parce que l'homme, quel qu'il soit, où il se trouve, est complètement absorbé par une conception mondaine. Il est séduit par le monde, il est désorienté par le monde et n'a pas le pouvoir de résister à la tentation du monde. C'est pour ça que Jésus nous dira « Je te prie, Père, je te prie de les garder du monde. Je te prie, ils sont dans le monde. » Je ne trouve pas tout à fait la formule. « Je te prie pour eux parce qu'ils sont dans le monde, mais je te prie de les garder du mal qui est dans le monde. » Voilà, on peut dire ça comme ça. J'ai un peu changé les choses. Quel qu'il soit, et quels que soient ses efforts, l'homme est tôt ou tard victime d'une aberration du monde, et il devient l'esclave de la vanité, de sa propre vanité. Il ne comprendra pas. Et ce qui fait qu'il peut être chrétien, mais seulement de nom, pas de cœur. C'est pour ça qu'une nouvelle création, une nouvelle créature, fait de Dieu un Dieu de l'intérieur. Oui, à l'intérieur de moi-même. Je termine. Paul annonce une bonne nouvelle, qui est une nouvelle, nous l'avons dit, universelle, résumée en un mot. Et ce mot, c'est le mot « grâce ». Ouais. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. On n'a plus qu'à tout recommencer, ou on n'a plus qu'à se mettre devant Dieu en se repentant et de dire « Seigneur, révèle-moi ta lumière, révèle-moi ta vérité, révèle-moi ton évangile, révèle-moi Jésus au fond de mon cœur. » Ça s'appelle la grâce. Et vous savez que quand Jean l'apôtre a écrit dans son prologue de l'évangile qu'il nous a laissé, il dira ceci, « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Soit je suis d'un côté ou je suis d'un autre. » Les chrétiens que nous ne sommes pas des juifs. Non. Nous suivons Jésus. Merci pour Moïse. Merci pour la loi de Moïse, parce qu'à travers tous les siècles et tous les temps, elle a servi d'instituteur, de professeur. Paul appellera un mot pédagogue, celui qui enseigne, pour nous préparer à rentrer dans une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'il y a, et je le répète à dessein, il y a eu l'ancienne alliance, et il y a maintenant la nouvelle alliance. Il y avait l'Ancien Testament, et aujourd'hui il y a le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas disciples de Moïse, nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est la grâce et la vérité, tout simplement. Alors, cette grâce ne peut intervenir qu'en Jésus-Christ. On n'a pas besoin des faveurs d'une église, d'un pasteur, d'un pape, d'un évêque, d'un archevêque, d'un cardinal, et ceci et cela, etc. On pourrait multiplier tous les intermédiaires qui sont là, finalement, eh bien, ils sont là. Mais elle ne vient qu'en Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Et comment se fait-il qu'il y a des millions et des millions et des centaines de millions de gens qui ne peuvent pas croire ça, que pour venir à Dieu et que pour rentrer dans le ciel, on ne vient que par Jésus-Christ? Ça, c'est aberrant. Moi, je dis que c'est le plus grand mensonge éhonté que le diable a répandu sur le monde. C'est pourtant simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes qui sont torturées par la religion, par finalement la culpabilité religieuse, par toutes sortes de choses d'exigence. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Je suis le chemin, croyez-moi. Je suis la vérité, croyez-moi plutôt. Le chemin, suivez-moi. Et je suis la vie, acceptez-moi. Et non, parce qu'il y a un voile. Et quand Paul dira, je ne sais plus dans quel épître, il dira, mais quand le voile est ôté, quand l'homme se convertit, le voile est ôté, il découvre une nouvelle vie. C'est merveilleux, hein? Moi, je trouve que c'est merveilleux, même si je suis tout seul à dire ce matin que c'est merveilleux. Je le dis, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que la grâce ? Est-ce que c'est un petit résidu, une petite miette là qui tombe de la table ? Quelque chose qui serait accessoire à la vie du salut, pour le salut, pour la vie éternelle ? Est-ce que c'est une absolution qui nous serait donnée par un prêtre ? La grâce ? Et on a été éduqués comme ça, hein ? On y est tous passés dans la petite cabane, là. Un homme qui aurait l'autorité d'absoudre les péchés des autres. Non, la grâce, écoutez bien, c'est Dieu en personne qui nous pardonne. La grâce, c'est Dieu qui accepte d'habiter dans le cœur du pécheur. La grâce, c'est le Dieu extérieur consentant à devenir le Dieu intérieur à chacun d'entre nous. Le jour où le Dieu extérieur est devenu le Dieu intérieur, la religion est devenue tout simplement une communion personnelle. La grâce est un don de l'esprit. La grâce, elle inspire, la grâce, elle guérit, la grâce, elle ressuscite, la grâce, elle transforme la créature ancienne en une nouvelle créature. Une nouvelle créature. La grâce donne au cœur des visions inconnues de la vie, et c'est vrai qu'on s'en souvient toujours. Moi, je me suis converti, j'étais un jeune homme, j'avais une vingtaine d'années, quand j'ai compris ce qu'était la grâce, et quand je me suis converti, mais la vie était belle. Mais la vie est toujours belle. Ah oui, tout le monde était triste avant. C'était gris, c'était noir, c'était sombre. Quel but, qu'est-ce que l'on pouvait espérer ? On était profondément malheureux, mais fallait-il être malheureux pour connaître qu'on pouvait devenir heureux ? Oui. La vie a été illuminée, hein, bien que nous ne sommes pas des illuminés. Oui, ça a été une force que Dieu nous a donnée, parce que nous sommes nés de nouveau. Ouais. Puis je termine en conclusion. Paul nous donne une bonne nouvelle, il résume la bonne nouvelle qui conduit au salut éternel par le chemin de la foi, par le chemin de la grâce, par le chemin du pardon de Dieu qui nous amène à la vérité de Dieu et qui nous donne la liberté de Dieu. Jean, ce sera le dernier texte. Vous connaissez ? Chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi à tous ceux qui étaient autour de lui, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce qui est important, c'est de garder sa parole, et non pas les commandements d'une église, non pas les commandements des hommes, non pas toutes les astreintes que nous donne finalement un concept religieux. Pas du tout. Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Résultat, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le chrétien est un homme libre et heureux d'être libre. Dans sa conscience, dans sa tête, dans sa pensée, dans sa volonté, il est libre, tout en étant un citoyen du monde et du pays dans lequel nous sommes. Eh oui, c'est la liberté. Alors, qui dirait que la grâce annule la liberté ? Nous en avons eu le contraire par les bouches même de Jésus. La grâce ne tue pas la liberté, elle la rend possible. Elle rend possible la liberté, la grâce. La grâce ne lie pas la liberté, elle la délie. La grâce trempe les volontés des chrétiens. Elle est en train de forger cette volonté, et qui a donné finalement le caractère d'hommes qui ont été des exceptions dans notre monde. Quand on voit un Pierre, un Paul transformé sous la grâce de Dieu, ben on se dit que ça a été véritablement des grands hommes de l'histoire, des grands hommes de foi. Hein. Alors, quand une créature a conscience de posséder Dieu en elle-même, à l'intérieur, quel sacrifice pourrait nous coûter ? Puisque nous aimons Dieu plus que tout le reste. Même les exemples que nous avons, même jusqu'à donner notre vie, puisque lui a donné sa vie pour nous. On est capable, non pas de témérité, mais d'une audace, l'audace de l'esprit. Quel tyran ou quelle opposition extérieure pourrait anéantir notre foi? Il y a des gens qui ont souffert toute leur vie durant, qui ont été mis en prison, je pense à Marie Durand, au XVIIIe siècle, 38 ans de prison pour sa foi dans la tour d'Aigues-Mortes. Et puis dans d'autres situations, qu'est-ce qui leur donnait cette force? Qu'est-ce qui leur donnait ce comportement et cette résistance à l'erreur? C'est parce que finalement, ils avaient Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'était la grâce, tout simplement. La nouvelle créature est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Eh oui, c'est ce que nous devons vivre. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens qui ont oublié qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, mais ils vivent comme si Jésus-Christ n'existait pas. C'est malheureux, hein. On dit que ce sont des chrétiens mondains. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de Jésus-Christ, s'il a laissé Jésus-Christ rentrer dans son cœur, s'il croit en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Parce que nous avons tout pleinement en lui, nous dit Paul un peu plus loin, nous avons tout pleinement en lui de la vie, du pardon et du bonheur de Dieu que nous a promis, et en plus, parce que c'est le but, la vie éternelle. Que Dieu nous aide ce matin. Ça va, c'était pas trop compliqué? J'ai essayé de faire un petit survol, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut rappeler, et c'est ce que l'on appelle des vérités fondamentales. N'oublions pas que notre vie n'est pas une vie, finalement, religieuse, mais une vie spirituelle. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rappelle, Seigneur, que si Christ vit en nous, mais nous avons tout. C'est véritablement, la grâce de Dieu. Alors, c'est vrai que cette foi, cette grâce nous conduit à avoir certainement une morale renouvelée, à avoir un sens du devoir exemplaire, à avoir une conscience purifiée. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions et nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que tu as montré encore que le beau message de l'apôtre Paul pouvait se résumer en un mot, deviens. Alors nous voulons devenir encore. Nous ne voulons pas cesser de progresser. Nous ne voulons pas cesser d'aller de progrès en progrès. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis nos amis qui sont là et si véritablement ils sentent que par l'esprit ils ont besoin de devenir de nouvelles créatures. Eh bien, ils vont te le demander et toi tu vas le faire en eux. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.